Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Clara Léonard.
Bonjour, enchantée.
Bienvenue, c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous accueillir. Vous êtes fondatrice de l'Institut Avant-Garde. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce que l'Institut Avant-Garde avant qu'on rentre dans l'actualité du jour ?
Exactement, donc nous existons depuis septembre. C'est un institut qui a été créé pour faire le lien entre la recherche académique avec une approche de l'économie pluridisciplinaire et les politiques publiques. Voilà, donc on a une équipe de profils mixtes, des gens qui ont à la fois été dans le milieu universitaire et puis dans les administrations. Et puis surtout, on fait partie d'un réseau européen de think tanks qui ont la même démarche. Et donc l'idée, c'est aussi de développer une coopération et un mouvement intellectuel européen.
C'est essentiel de créer un lien entre la recherche fondamentale et la vie politique. Si je vais être un petit peu plus cash que vous. Ça veut dire qu'en fait, vous vous dites qu'il y a des travaux qui sont menés aujourd'hui au niveau académique et qui ne trouvent pas de traduction politique et il faut que ça change. C'est ça l'idée ?
En fait, ce que je dis, c'est que la recherche doit être traduite en propositions concrètes. Voilà.
De la même manière, quand on voit les travaux du CEA et le peu de travaux du CEA qui donnent lieu à des créations d'entreprises avec des créations de business, on se dit qu'il y a encore des marges de progression. Bonjour Guillaume Poitrinal.
Bonjour.
Fondateur de WO2, vous avez publié Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action chez Stock. C'est Poitrinal Day, alors on va parler de logement et de simplification.
Merci.
Ah, Poitrinal Day.
Enfin des sujets.
Voilà, enfin. Marc Vigneault, bienvenue.
Bonjour Nicolas.
Journaliste à l'Opinion. Alors, j'ai pas lu l'article exprès, Marc. Je me suis dit que Marc venait vendredi, donc on n'allait pas en parler d'ici là. Il allait me raconter pourquoi en France, tout n'est pas joué à la naissance au travers de travaux qui ont été rendus publics par un économiste de l'INSEE.
Je vais vous raconter ça.
Ouais, absolument. La croissance avec les dents, les logements avec les dents, bon, très bien. Le choc d'offre, sauf que la profession dit que c'est pas du tout un problème d'offre. C'est un problème de demande. Il n'y a plus d'acheteurs. Et d'ailleurs, j'en discutais avec Pascal Boulanger de la Fédération des promoteurs immobiliers. Après le fameux choc d'offres et les quelques 5-6 propositions qu'il y avait dans le discours de politique générale d'Attal, il me disait, mais moi, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. C'est que je n'ai pas d'acheteurs.
Oui, alors en fait, il ne faut pas exagérer. Les jeunes ont besoin de se loger et la demande de logement, elle est là. On a des familles qui se démultiplient, on a de la demande. Le problème, c'est que la demande ne rencontre pas l'offre. Pourquoi ? Parce que cette demande, elle est maintenant, aujourd'hui, plus insolvable qu'avant, parce que les taux ont augmenté de façon extrêmement violente, et c'est une décision, franchement, dont on va voir, là, maintenant, les répercussions dans les années qui viennent. Mais la violence de la hausse des taux était très mortifère pour beaucoup de projets. Mais surtout, derrière ça, en fait, nous avons des prix qui sont trop élevés pour le logement, et il faut se poser la question de savoir pourquoi ces programmes, aujourd'hui, restent vides, tout simplement parce qu'ils sont trop chers. Pourquoi est-ce qu'ils sont trop chers ? Ils sont trop chers parce que nous sommes dans un univers de production hyper réglementé, certains diront même collectivisé, du logement. Donc c'est très compliqué d'avoir accès aux fonciers. Les fonciers ont été achetés très cher par les promoteurs à l'époque du boom. Donc les prix de revient des fonciers sont considérables. Le niveau d'imposition et de taxation est juste dingue. Je vous donne juste une idée. Quand vous achetez un logement neuf, vous allez payer...
À quel endroit ? Parce que de l'imposition, il y en a depuis la construction jusqu'à la cession.
Mais il y a juste un élément qui sépare tout dans le truc. La TVA sur du neuf. La TVA, moi j'ai toujours appris, c'était la taxe sur la valeur ajoutée. Bon, une valeur ajoutée, pourquoi pas ? Vous faites des travaux, vous avez une valeur ajoutée, pourquoi pas ? Moi, promoteur, j'achète un foncier 2000 euros à une collectivité. Je le revends 2000 euros plus les travaux. Eh bien, sachez que sur la part de foncier, je vais payer 20% de TVA. Parce que c'est mon prix final, foncier compris, qui est soumis à la TVA. 20%, 400 euros pour rien. Quelle est la valeur ajoutée ? Il y a zéro valeur ajoutée là-dessus. Zéro valeur ajoutée. Donc nous sommes le logement. Et puis, il y a l'hyper-réglementation qui fait que vous êtes obligé de faire une douche à l'italienne. Que au cas où il y aurait une personne à mobilité réduite qui viendrait, vous faites une douche à l'italienne. Ça a été voté à Paris. C'est 2700 euros par logement supplémentaire. L'occurrence que vous ayez d'avoir un handicapé qui peut pas faire un centimètre de ressaut pour aller prendre sa douche, elle est quand même très très faible. Et nous, on pense que on aurait dû aider les handicapés. On devrait donner des centaines de milliers d'euros aux handicapés pour adapter les logements où ils veulent. veulent, ça coûterait beaucoup moins cher que d'exiger que tous les logements neufs soient en mesure d'accueillir des handicapés avec cette fameuse douche sans ressaut qui est unique en monde d'ailleurs, en obligation. Il n'y a pas d'autres pays où on fait une douche sans ressaut. Bon, un exemple parmi plein d'autres.
Vous me direz ce que vous pensez des mesures Attal, parce que j'ai eu pas mal de réactions sur notamment la réécriture de la loi SRU qui a un peu froissé les plus à gauche d'entre nous. Marc Vigneault.
Le problème de dire il manque de la demande, c'est que à chaque fois que l'immobilier va pas bien, on demande des mesures de demande, c'est-à-dire en gros l'injection de la dépense publique pour subventionner la demande, et les prix ne baissent jamais.
Ah oui, parce que donc la subvention atterrit dans les prix à la fin.
Voilà, exactement. Et donc il y a un moment quand il y a une crise du logement, qu'est-ce qui peut faire repartir le logement? Bah c'est que les prix baissent enfin. Et donc si on bloque la baisse des prix, on va avoir un problème. Donc c'est un peu l'éternel sujet. Et c'est pour ça que le gouvernement se concentre du côté de l'offre, parce que il veut pas bloquer une éventuelle baisse des prix
si
qui a déjà
bien,
du
Marc,
mal à advenir.
Si on sortait des mesures de dépenses publiques et d'argent public pour supporter la demande, on aurait un phénomène de répercussion à la hausse,
exactement,
comme pour le bonus réparation.
Exactement, on empêcherait les prix de baisser. C'est exactement ce que demande en fait la Fédération des promoteurs immobiliers. On comprend bien pourquoi, mais ils demandent des mesures pour accélérer les transmissions, pour accélérer les donations, pour donner de l'argent aux familles qui ont d'ailleurs déjà de l'argent pour s'acheter un logement. Et donc eux, ça soutiendrait évidemment leur business, mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire? C'est pas du tout évident.
Bon. Clara, vous avez un truc à ajouter?
Alors, concernant le logement. L'offre, oui, mais pas n'importe quelle offre. Donc, on peut se demander, parce que Gabriel Attal mentionnait les pavillons hier.
Oui, il a défendu les pavillons qu'Emmanuel Wargon avait désingué, oui.
Voilà,
la maison
exactement,
individuelle, donc le rêve, là. c'était un débat.
Ça, les écolos n'aiment pas.
Bon, allez-y, continuez.
Voilà, justement, donc on peut se demander comment ça peut résoudre deux grands problèmes du logement aujourd'hui. Le mal-logement, donc selon la Fondation Abbé Pierre, il y a 2,5 millions de demandes de HLM aujourd'hui. Comment est-ce que ça va être résolu avec les pavillons? Et puis surtout, les questions écologiques. Est-ce que le pavillon, c'est pas finalement décalé par rapport aux enjeux aujourd'hui? Alors, il mentionne d'autres pistes, par exemple la surélévation des logements, la transformation des bureaux en logements, qui peuvent être peut-être des pistes plus intéressantes que les pavillons. Mais la question, c'est l'acceptabilité et à quel point justement cette surélévation.
Je ne suis pas fan des pavillons, Clara et Léonard.
Voilà, c'est ça. Alors, on a des problèmes. Alors, je mentionne zéro artificialisation nette. Aujourd'hui, il y a chaque année entre 20 000 et 30 000 hectares par an perdus en raison de l'activité humaine. L'objectif, c'est zéro. Les pavillons, alors lui, il parle de densification des zones, mais à quel point c'est possible
Gabriel Attal, il dit il y a des terrains privés sur lesquels il y a de l'espace, mais c'est déjà artificialisé. Donc, si vous coupez votre terrain en deux et que vous décidez de faire construire une maison et que vous voulez la louer, super. Et donc, on n'a pas besoin pour ça d'artificialiser des sols. Donc ça, il faudra vérifier. Moi, ce que je trouve fascinant dans les annonces de Gabriel Attal, c'est quand même on nous ressort toutes les tartes à la crème qu'on nous a sorties depuis des années. Alors, soit ils vont réussir à le faire vraiment, soit on se dit, mais franchement, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Par exemple, quand il dit, on va surélever ce qu'on pourrait appeler les dents creuses en ville. Je me rappelle qu'il y a quelques années, je me rappelle plus sous quel gouvernement, je suivais un peu les dossiers logements et on nous avait fait le même coup. On nous avait dit on va faire des études pour savoir
quels immeubles. C'était le premier mandat d'Anne Hidalgo. Il y a eu même un recensement à Paris. Premier mandat d'Anne Hidalgo, recensement de toutes les dents creuses et invitation
et
à tous les
promoteurs
de ces dents creuses.
Et alors attendez, c'est extraordinaire parce que là,
aujourd'hui,
le gouvernement nous dit quoi? On va financer une étude pour savoir où est-ce qu'on peut surélever. Avec la Banque des Territoires, je crois, on va financer un peu, en tout cas pour l'Île-de-France, on va financer. Guillaume Poitrinal nous dit que ça a déjà été fait, ces études, il y a quelques années.
Ça a été interrompu. Tout le problème de toutes ces politiques, c'est qu'en fait, elles sont en pointillé. Donc, on vous dit, promoteur, intéressez-vous aux dents creuses. Ça, c'est Anne Hidalgo, premier mandat. Et puis ensuite, on dit, écoutez, maintenant, il y a plus d'écolos à la mairie de Paris. Donc, on arrête les dents creuses, on arrête l'intensification et on veut dédensifier les cœurs de ville. Il faut s'occuper de la production. Il faut qu'on puisse produire plus de logements. Il faut donc simplifier l'acte de produire, l'acte de transformer des bureaux en logements.
Bon, je pense que
tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, transformer des bureaux en logements, c'est un permis de construire. Ça veut dire des recours. Ça veut dire aussi des normes qui vont s'appliquer. Ça veut dire un autre code pour les pompiers parce que on fonctionne pas pareil suivant qu'on est en logement ou qu'on est en hôtellerie ou qu'on est en bureau vis-à-vis des pompiers. Donc, c'est très, très, très compliqué.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est de se dire, ils découvrent ça alors qu'en 2017 ils ont quand même fait une grande loi qui était censée être un choc d'offres pour le logement, et on se dit bah, attendez, si vous n'avez pas simplifié la transformation des immeubles de bureaux en logement, bon, vous le faites éventuellement 6 ans plus tard ou 7 ans plus tard, mais il est temps quoi.
C'est plus compliqué que de faire du Pinel, c'est vrai.
Alors il y a la question des normes, mais il y a la question aussi de l'investissement public. Voilà, l'effort public pour le logement est passé de 2,2% du PIB en 2010 à 1,6% en 2022. Le nombre de logements sociaux financés est le plus faible depuis 15 ans. Voilà, donc on se demande aussi pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, l'accent est mis sur le logement, alors que le bilan des mandats Macron est plutôt un désengagement.
Et puis, il faut mettre l'accent sur le logement parce qu'on prend conscience qu'on est devant.
Oui, bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait plus tôt?
Et le deuxième élément.
C'est comme la simplification, on va se poser la même question.
Le deuxième élément, c'est le désespoir de l'investisseur bailleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'investisseur bailleur est quand même très largement surtaxé. Je vous rappelle que si vous investissez et que vous êtes soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, très très vite, votre rendement sera égal à zéro. Donc on est sur des on est quand même sur aussi une surimposition, et puis tout l'encadrement législatif est quand même très défavorable aux bailleurs, très favorable aux locataires. Tout ça désespère, et on a aujourd'hui des retraits des bailleurs aujourd'hui du financement de logements neufs. Donc ça veut dire que le coût du capital va coûter plus cher, puisqu'en fait on a moins de fonds propres. Je rappelle que il y a quand même dans le prix au mètre carré, il y a quand même un coût du capital, et plus il y a d'investisseurs, et plus ce coût du capital baisse.
Alors vous avez vu que notre nouveau ministre délégué au logement, c'est Guillaume Kasbarian. Justement, il est controversé parce qu'il a fait voter, quand il était parlementaire, quand il était président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée, il a fait voter une loi pour expulser plus facilement les mauvais payeurs, et on lui dit bah c'est antisocial, ça met des gens qui ont des vraies difficultés, on dit qu'ils sont responsables, et on va jusqu'à prévoir, je crois, des peines de prison. Donc il a été beaucoup critiqué pour ça, mais c'est vrai que la législation protège beaucoup les locataires. Jusqu'où il faut aller pour les expulser rapidement, jusqu'où il faut les punir, etc., je ne sais pas, je ne me suis pas penché très, très finement sur ce sujet, mais en tout cas, Guillaume Kasbarian, il s'est attaqué, pas au volet fiscalité, mais au volet surprotection des locataires, pour donner justement un peu confiance aux gens.
Il faut bien comprendre que des choses comme l'encadrement des loyers, par exemple, dans les grandes villes, ça aussi, ça, on sait que ça fonctionne pas. L'encadrement des loyers est en train de vider l'offre locative. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dès que vous mettez une annonce sur un loyer encadré, vous avez 250 demandes, et qu'aujourd'hui, eh bien, un certain nombre de bailleurs, tout simplement parce qu'ils peuvent pas payer la mise aux normes DPE à l'intérieur d'un encadrement des loyers. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que la mise aux normes en matière de normes environnementales est tellement chère que vous n'avez pas de retour sur investissement dans le cadre d'un loyer encadré. Et donc, vous avez aujourd'hui plein d'offres qui sortent du marché, qui ne sera plus jamais loué, avec des gens qui disent bah, je pars sur Airbnb, ou alors finalement en fait je vais le vendre. Alors ça, c'est très bien pour ceux qui ont beaucoup de sous, parce qu'ils vont pouvoir acheter, mais ça sort du marché locatif, et on a besoin du marché locatif. On a besoin de s'occuper des pauvres dans ce pays avec le logement social, ça on est d'accord, mais derrière, la classe moyenne, il faut qu'elle puisse se loger, et donc il faut de l'offre, et il faut désencadrer, il faut simplifier l'acte d'investissement immobilier.
Et quand la classe moyenne peut se loger, pardon.
Clara, oui, Clara.
Il y a une question aussi de normes, justement, DPE, c'est assez controversé parce que c'est très instable, c'est fortement dépendant d'hypothèses. Je souhaiterais aussi mentionner une étude du CAE sur cette question du DPE.
Assez passionnante, l'étude.
Voilà, c'est ça, assez passionnante, qui montre que voilà, la rénovation des bâtiments, malheureusement, si on regarde l'effet théorique de la transformation d'un logement classé AG en passoire thermique, c'est beaucoup moins d'effet sur la consommation d'énergie, 86% en réalité versus 560% en théorique d'augmentation de l'énergie entre AG et passoire thermique. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle des effets rebonds, des effets de comportementaux qu'il faut comprendre. Après, il y a des accroissements de bien-être qui sont permis par ces rénovations, qui sont importants et qu'il faut comptabiliser.
Oui, c'était hyper intéressant, l'étude du CAE qui vous dit que c'est très théorique, le DPE. On regarde vos murs, on regarde vos combles, on regarde vos fenêtres, et puis on arrive à une note, mais en fait, on ne tient pas compte d'un élément essentiel, c'est quel va être le comportement de ceux qui y vivent. Et en fait, à la fin, l'empreinte thermique, c'est le comportement des gens qui y vivent, c'est plus que la théorie des murs. Quoi.
Si vous êtes au-dessus d'une laverie, vous avez quasiment le chauffage gratuit.
Oui.
Il faut bien comprendre. Vous avez des sujets, par exemple, d'étanchéité à l'air. Vous pouvez avoir des formidables facteurs DPE parce que vous avez mis 10 cm de laine de roche pour isoler votre appartement. D'ailleurs, vous allez souvent perdre 3-4% de la surface à le faire en intérieur à Paris puisque vous n'avez pas le droit de le faire en extérieur. Mais par exemple, l'étanchéité à l'air, on ne le prend pas en compte. Vous pouvez avoir un appartement qui fuit. Et ben, vous pouvez avoir un appartement A qui est en fuite, quasiment.
Oui, mais je...
C'est pas un sujet.
On est en train de prendre conscience.
On va pas faire trop de technique
des défauts du DPE. Non, mais on est.
Voilà, il
reste 4 minutes avant de marquer une pause. Sophie Sidos Vicat, des Ciments Vicat, était avec moi là il y a quelques jours et elle est un peu inquiète quand même de ce qui se passe sur le secteur globalement. Et elle disait, il faut arrêter les ânes. Il faut même arrêter RE 2020. Carrément.
Oui, alors ils sont pas très contents, nos amis.
Ça veut dire,
contents, nos amis du béton.
Comme pour les agriculteurs, on met en pause tout ce qui est écologie punitive. Que finalement, on se rend compte qu'on arrive pas à
faire. La RE 2020, elle est pas punitive, c'est même peut-être la plus intelligente des normes. Pourquoi ? Parce que le sujet du réchauffement climatique, c'est le CO2. Ouais. Ce n'est pas le kilowattheure. Ce n'est pas le kilowattheure.
C'est le problème du DPE que vous décrivez.
Et donc, dans la RE 2020, Julien de Normandie a rajouté un compteur sur l'empreinte carbone des bâtiments neufs. Alors, ça rend pas service au béton. Pourquoi ? Parce que le béton est très émetteur de CO2. La formule chimique qui fait du ciment, elle est très émettrice de CO2. Ils essayent, ils font des efforts remarquables pour essayer de baisser la facture. Mais le béton, c'est un peu comme le moteur. Ça restera émetteur. Il y a qu'un matériau aujourd'hui.
Ils nous disent qu'ils ont du béton vert.
Oui, il baisse la facture. Il n'y a qu'un matériau qui a une empreinte carbone inversée, qui est le bois, parce qu'il est issu de la photosynthèse, et qu'un arbre, ça passe son temps à manger du CO2, ça désintoxique la planète, et le carbone qui fait le bois, lui, il est stocké pour la longue durée. Donc c'est autant de CO2 que vous allez prélever de l'atmosphère dans vos matériaux de construction.
Donc vous me dites carbone RE 2020.
Ça arrange pas Vicat, qui, soit dit au passant, est une magnifique entreprise.
Oui, absolument.
Et qui est le dernier cimentier français indépendant depuis que Lafarge et les ciments français nous ont quittés.
Un dernier mot, et puis après on passe à la simplification. Sur l'histoire de la loi SRU, Gabriel Attal, il dit, bon, y a des villes qui n'arrivent pas à avoir leurs 20-25% de logements sociaux, donc on va leur permettre d'introduire dans la catégorie logements sociaux les logements dits intermédiaires. Et là, vous avez l'ensemble des associations de mal-logement, notamment la Fondation Abbé Pierre, qui disent, non mais c'est scandaleux, parce qu'en fait, un logement intermédiaire, c'est un logement pour classe moyenne aisée. C'est pas du tout un logement social. Donc on permet aux municipalités de remplir leur quota SRU en leur ouvrant la possibilité, finalement, de tordre l'esprit
là, on est dans, là, on est encore dans cette idée que c'est le logement social qui va tout sauver. Moi, je m'y oppose. Je pense qu'il faut qu'on ait un logement social puissant qui s'adresse aux catégories les plus modestes. Mais excusez-moi, quoi. Est-ce que toute la France doit être dans le logement social ? Est-ce que c'est ça notre projet ?
C'est pas ça le projet.
Donc, que dit Attal ? Et je pense qu'il a raison. Il a dit, dans ce quota SRU, je mets du logement pour les classes moyennes. Bon, c'est pas idiot, surtout qu'on est vite classe moyenne en France. Hein. Je rappelle que le salaire médian, il est pas si élevé que ça.
Le médian, il est à 2000 à peu près net.
Voilà.
Et le moyen 2004. Net,
et donc, si on voulait remettre tout ça en route, il faut d'un côté un logement social puissant mais cantonné, et de l'autre côté, il faut de l'investissement privé. Il faut amener les gens à construire et à être bailleurs de logements. C'est ça qu'il faudrait faire.
Une tranche. Chacun un mot pour conclure et on marque une pause. Allez-y, Clara. Allez-y.
Il y a aussi une question de temporalité. Donc, je vais pas rementionner les chiffres, mais quand il y a 2,5 millions de demandes de HLM, c'est-à-dire qu'on a une situation aujourd'hui où il y a un très grand besoin de logement social. Alors si on agit en effet sur les facteurs qui permettent aux gens de sortir de la pauvreté structurellement à long terme,
on a augmenté les minima qui permettent d'accéder au logement social. Il faut le savoir, pour répondre à la crise du logement, qu'on a augmenté ces minima. Donc évidemment, quand vous dites à quelqu'un, vous pouvez payer là 100, mais si vous êtes en logement social, vous pouvez payer 70, il va de toute façon déposer un dossier au logement social. Je veux dire,
la logique du gouvernement, c'est de dire, on constate que les maires, pour construire, ils ont besoin d'avoir la main un peu sur qui ils mettent dans leurs logements sociaux. Donc en fait, c'est une demande qui vient un peu du terrain et puis ça correspond au discours politique de Gabriel Attal, tout pour les classes moyennes. Alors c'est vrai que ça risque d'exclure des gens qui ont vraiment besoin d'un logement social, etc., puisqu'il n'y aura pas de logement créé, mais ça peut permettre aux maires d'être un peu moins frileux sur leur programme et de se dire, j'ai un peu de contrôle. C'est comme quand on dit, on va redonner la main aux maires un peu sur qui va venir dans les logements sociaux que j'ai construits. Le problème, c'est le risque, c'est le clientélisme. Et l'avantage, ça serait de redonner un peu confiance aux maires pour qu'ils soient plus allants sur ces questions.
Transition sur le truc, le maire, dans la plupart des situations, n'a plus la main sur son PLU. Il faut savoir que dans la complexité administrative aujourd'hui, dans le millefeuille, la main du PLU, enfin la responsabilité du PLU est passée la plupart du temps à l'intercommunalité. Mmh. Si vous voulez changer le PLU de notaire, vous devez aller voir le président de Paris-Ouest La Défense, le maire de Courbevoie, qui lui décide ou pas avec son intercommunalité de changer le PLU.
5 parlementaires, 14 propositions, la simplification c'est maintenant. À tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.